Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 49, Daf Mem Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Vehare Maaser, pourtant, nous voyons en ce qui concerne la seconde dîme qui doit être consommée dans la ville de Yerushalayim, de Hunivde, qui peut être rachetée pour être consommée sur place. Et sa contre-valeur serait consommée dans la ville de Yerushalayim. Et s'il est devenu impur, il peut être racheté même lorsqu'il se trouve dans la ville de Yerushalayim. Ve'ilu lakuach bekesef maaser, tandis que ce qui a été acheté avec l'argent de la seconde dîme, donc avec la contre-valeur de la seconde dîme, enonifde, ne peut pas être racheté selon l'opinion de Rabbi Yehuda, comme nous le verrons d'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah dans Masechet Maaser Sheni Perek Gimel, Mishnah Yud. Halakouach bekesef maaser shenitma, ce qui a été acheté avec l'argent de la seconde dîme, donc la contre-valeur de la seconde dîme qui est devenue impure, yipadé, il pourra être racheté sur place dans la ville de Yerushalayim, puisque finalement il ne peut pas être consommé dans la ville de Yerushalayim. Rabbi Yehuda Omer, yikaver, il devra être enterré car il ne peut pas être racheté. Nous voyons donc que ce qui provient de la seconde dîme ne peut pas être racheté, alors que la seconde dîme elle-même peut être racheté. Nous voyons que le secondaire est plus grave que l'essentiel. L'agma répond, Hatam, là-bas la raison pour laquelle ce qui a été acheté avec la contre-valeur de la seconde dîme ne peut pas être racheté, c'est parce que lo alima kdushatel mitvas pidyoné, sa sainteté n'est pas suffisamment puissante pour pouvoir être transférée sur de l'argent. C'est pour cela donc qu'il ne peut pas être racheté, il faudra donc l'enterrer selon Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Veharet Moura, pourtant nous voyons concernant l'échange du sacrifice, De ilu kodashim lo chayle al baal mum kavua. En effet, la sainteté du sacrifice ne peut pas prendre effet sur un animal atteint d'une infirmité fixe. Donc même si on le désigne comme sacrifice, il n'aura pas la sainteté du sacrifice. De ilu ihi chayla. Tandis qu'elle donc l'échange du sacrifice peut prendre effet même sur un animal atteint d'une infirmité fixe. L'agma répond, là-bas ce n'est pas parce que le secondaire a le statut plus grave que l'essentiel, mais au contraire, tmura mechamad kodashim kaatia, l'échange du sacrifice provient justement d'un animal qui a la sainteté du sacrifice. Cette sainteté peut être transférée, donc même si ce n'est pas vraiment transféré, mais en tout cas, ce qui provient de cette sainteté peut prendre effet sur un animal atteint d'une infirmité fixe, vekodshim, merkoach chulin kate, tandis que le sacrifice d'origine provient d'un animal profane, il n'a pas le pouvoir de prendre effet donc sur un animal atteint d'une infirmité fixe. La Gemara demande, Hare Pesach, pourtant nous voyons à propos du Korban Pesach, de hu eno taun smicha unesachim utnufat chazeveshok, qui lui ne nécessite pas ni qu'on s'appuie sur sa tête avant d'être sacrifié, ni il n'est accompagné de libation, ni on ne balance sa poitrine et sa cuisse droite, des ilou motardide, tandis que le surplus du Korban Pessah, c'est-à-dire dans le cas par exemple où une personne a désigné un animal comme Korban Pessah, puis il s'est perdu et il en a désigné un autre qu'il a offert, donc finalement lorsqu'il retrouve le premier, c'est un surplus qui ne peut pas être offert avant Pessah ou pour Pessah. Il a le statut du Korban Shlamim. Donc le surplus du Korban Pessah, Taun Smicha Unesachim Utnufat Chazeveshok, nécessite le fait de s'appuyer sur sa tête avant d'être sacrifié, et il est accompagné de libation, et il faut aussi balancer sa poitrine et sa cuisse droite pour être donné au Kohen. Nous voyons donc que le secondaire qui provient du Korban Pessah un statut plus grave que le Korban Pessah lui-même. La Gemara répond, Pessah Beshar Yemot HaShana, le Korban Pessah, les autres jours de l'année, donc quand ce n'est pas Erev Pessah, Shlamim Hu, a automatiquement le statut d'un Korban Shlamim, donc ce n'est pas parce qu'il provient du Korban Pessah qu'il nécessite qu'on s'appuie sur sa tête avant son sacrifice et qu'il soit accompagné de libation, etc., mais plutôt parce qu'il a reçu le statut du Korban Shlamim. Vibaitema, et si tu trouves à redire sur ces réponses, et donc tu cherches un pasouk à propos du Korban Ola pour dire qu'il est impératif qu'il soit sacrifié et que son sang soit recueilli dans la partie nord du sanctuaire, on pourra le dire, Amakra le pasouk dit Haola, le korban ola, le hé est en plus. Il s'agit vraisemblablement du passou concernant le korban chatat qui dit que le korban sera sacrifié bimkom haola, bimkom asher tishachet haola, là où est sacrifié le korban ola. Le hé est en plus pour nous enseigner bimkoma tehe. Ce korban ola doit être impérativement à l'endroit fixé par la Torah, donc il doit être sacrifié, son sang doit être recueilli dans la partie nord de la cour du sanctuaire. La Gemara demande maintenant, Hacham Menaland de Baet Safon, d'où sait-on que le Korban Hacham, c'est aussi un sacrifice expiatoire, doit être sacrifié impérativement dans la partie nord de la cour du sanctuaire? La Gemara répond, dirtiv, car le Pasuk dit dans Vaikra Zayin, concernant le Korban Hacham, Bimkom Asher Ishratu et Haola, Ishratu et Hacham, à l'endroit où ils sacrifieront le Korban Ola, ils sacrifieront le Korban Hacham. La Gemara demande Ashkechan Shrita, nous avons trouvé un pasouk pour la sacrification du Korban Hacham, donc qui doit être effectué dans la partie nord de la cour du sanctuaire, qui est l'endroit où est sacrifié le Korban Ola. Kabbalah Menalan, mais d'où sait-on que son sang doit être recueilli dans la partie nord de la cour du sanctuaire? La Gemara répond, car le pasouk continue en disant Ve'et Damo Izrok, et son sang il l'aspergera. En fait, nous pouvons interpréter le pasouk de la manière suivante. À l'endroit où on sacrifiera le korban ola, on sacrifiera le korban hacham, ve'et damo et son sang. Donc, son sang sera aussi recueilli au même endroit, donc dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Alors, kiboul damo nami betsafon. Nous avons appris de ce pasouk que le recueillement de son sang doit être aussi effectué dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Mekabel atzmo menalan. D'où sait-on que la personne qui recueille le sang du korban hacham doit aussi se trouver dans la partie nord de la cour du sanctuaire? L'Agma répond, Damo ve'et Damo. Le terme ve'et, donc dans le pasouk ve'et Damo, et son sang, est en plus pour nous enseigner que la personne qui recueille le sang du Korban Hacham doit aussi se trouver dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Alors l'Agma demande, Ashkechan le mitzvah. Nous avons trouvé qu'il y a une mitzvah de le faire, donc a priori, il faut sacrifier et recueillir le sang du Korban Hacham dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Les Akev Menalan, mais d'où sait-on que c'est impératif de le faire? Sans cela, le sacrifice est invalidé. L'Agma répond, Kra Acharin Aktiv, il y a un autre pasouk dans Vaikra Yuddalet concernant le Korban Hacham offert par le lépreux lorsqu'il est guéri de sa maladie. Le pasouk dit, Veshachat et Hakeves, etc. Et il sacrifiera le mouton, donc le Korban Hacham, à l'endroit où est sacrifié le Korban Chatat et le Korban Ola. Nous voyons donc que ce mouton, donc, qui est un Korban Hacham, devra être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Cette répétition nous enseigne qu'il est impératif de le faire. Alors, la Gemara demande, Vehaïla Achiudata, est-ce que ce pasouk, c'est pour cela qu'il est venu, pour nous enseigner donc qu'il est impératif que le Korban Hacham soit sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire? Haï Mivaele, pourtant, ce pasouk, nous l'avons besoin, l'Irdetania, pour ce qui est enseigné dans la Braïta suivante. La Braïta dit, un des principes selon lequel la Torah est interprétée est le suivant. Davar Shehaya Bechlal, une chose ou un objet qui était inclus dans une règle générale, Veyatsa Lidon Bedavar Hechadash, et il est sorti, c'est-à-dire la Torah l'a enseigné séparément, donc l'a fait sortir de la règle générale, pour lui appliquer une nouvelle chose, de nouvelles lois qui n'existent nulle part ailleurs, Yata Rashai Larziro Leklalo, tu n'as pas le droit de le remettre dans la règle générale, donc pour que les lois qui existent dans la règle générale s'appliquent aussi pour cet objet, Ad Sheharzirenu Akatuv Leklalo Beferush, jusqu'à ce que la Torah le remette clairement dans sa règle générale. Ketsad, comment ou où est-ce que nous voyons ce principe? Par exemple, justement dans ce pasouk, dans Vaikra Yuddalet, le pasouk dit « Veshachat et hakeves bimkom asher ishchat et hachatat vet haola bimkom hakodesh ki kachatat ha'asham hu » et il sacrifiera le mouton à l'endroit où il sacrifie le korban chatat et le korban osha, dans l'endroit sacré, car le korban hacham est comme un korban chatat. « She'en talmud lomar kachatat ha'asham » En fait, le pasouk n'avait pas besoin de conclure par cette expression, car le korban hacham est comme un korban chatat. Ma talmud lomar kachatat hacham. Qu'est-ce que le pasouk vient nous enseigner lorsqu'il s'exprime de cette manière? Donc lorsqu'il dit, le korban Hashem est comme un korban chatat. La Braïta répond, le fish yatsa Hashem metzora lidon bedavar chadash, puisque le korban Hashem offert par le lépreux est sorti pour lui appliquer de nouvelles lois qui n'existent nulle part ailleurs. En effet, bebohen yad ou bohen regel veozen yemanit, la Torah a exigé que le sang de ce sacrifice soit appliqué sur le pouce droit du lépreux et sur son gros orteil droit et sur le lobe de son oreille droite, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Yachol lo yehe taun matan damim ve'emurim legabe misbeach. On aurait pu penser qu'on n'ait pas besoin d'asperger son sang sur l'autel et ni de faire brûler ses graisses sur l'autel. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk conclut en disant « Kachatat ha-hashamu, ce korban hasham est comme un korban chatat » pour nous dire « Ma chatat una matandamim ve'emurim legabe misbeach » de même que le korban chatat nécessite une aspersion de sang et que ses graisses soient brûlées sur l'autel « Af hasham metzora ta'un matandamim ve'emurim legabe misbeach » ainsi le korban hasham offert par le lépreux nécessite une aspersion de sang et que ses graisses soient brûlées sur l'autel. La Torah a eu besoin donc d'ajouter clairement une précision, donc cette juxtaposition du Korban Hasham au Korban Chatat, pour nous enseigner que les lois générales du Korban Hasham s'appliquent aussi pour le Korban Hasham, car sinon, puisqu'il y a des applications de sang spéciales pour ce sacrifice, on aurait pu penser qu'il est sorti entièrement de la généralité des Korban Hasham, et donc il ne nécessite pas d'aspersion de sang, etc. Il se peut donc que la Torah a dû préciser que ce sacrifice est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire comme le Korban Chatat, car sinon on aurait pu penser qu'il n'est pas nécessaire de le sacrifier dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Finalement, la Torah n'a pas répété cette loi concernant ce Korban Hasham pour nous enseigner qu'il est impératif que le Korban Hasham soit sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. L'Agma répond, Imken, si c'est uniquement pour cela que la Torah l'a répété, donc pour nous enseigner que le Korban Hasham offert par le Metzora doit être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, mais ce n'est pas impératif, Nirtov Behai, Velo Nirtov Behai, la Torah aurait pu se contenter d'enseigner ce fait donc que le Korban Hasham est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire uniquement concernant le Korban Hasham offert par le lépreux et n'avait pas besoin de l'enseigner dans Vaikra Zayin concernant tous les korbanot hasham en général. Cette répétition donc nous enseigne qu'il est impératif que le korban hasham soit sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. En la Gemara demande, Hanicha isviralan, c'est bien si nous pensons que dans le cas où Yatsali don bedavar echadash, ou quelque chose qui est sorti de sa règle générale pour lui appliquer des lois nouvelles qui n'existent nulle part ailleurs, ihu hu de logama miklalo, c'est uniquement lui qui ne peut pas apprendre de sa règle générale, car finalement il est sorti de sa règle générale.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf, même tête à bout de bête. Aval klalo gamar miné, mais la règle générale à laquelle il appartient peut apprendre de lui, pour ce qui n'est pas exceptionnel. Et cela, selon un autre principe qui dit que lorsqu'une chose est sortie de sa règle générale, donc que la Torah a enseigné séparément, pour préciser une loi qui n'est pas exceptionnelle, ce n'est pas seulement pour lui que la Torah l'a dit donc que cette loi s'applique, mais pour toute sa règle générale. Shapir, c'est bien, nous pouvons apprendre du Korban Hasham offert par le lépreux que tous les Korbanot Hasham seront sacrifiés dans la partie nord de la cour du sanctuaire, puisque finalement, il ne s'agit pas d'une loi exceptionnelle. Et là, Isviralan, mais si nous pensons que dans le cas où la Torah a précisé une loi nouvelle qui n'existe nulle part ailleurs, de Lohu Gama Miklalo, que ni lui ne peut apprendre de sa règle générale, Velo Klalo Gama Miné, et ni la règle générale à laquelle il appartient peut apprendre de lui, même s'il ne s'agit pas de quelque chose d'exceptionnel, Hay le goufe histarir, finalement, la Torah a précisé que ce Korban Hasham est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire pour lui-même et non pas pour les autres sacrifices. Donc finalement, nous ne savons pas que le Korban Hasham doit être impérativement sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire? Agma répond, Kivan de'ahdere, puisque la Torah finalement l'a ramené à sa règle générale, comme nous l'avons vu précédemment, parce que le Passouk conclut que ce Korban Hasham est comme le Korban Khatat, ahdere, finalement la Torah l'a remis dans sa règle générale, et en ce qui concerne les lois qui ne sont pas exceptionnelles, comme le fait de le sacrifier dans la partie nord de la cour du sanctuaire, la règle générale à laquelle il appartient pourra apprendre de ce qui est enseigné concernant le Korban Hasham offert par le lépreux. Amarle, Marzutra, Bere, de Rav Mari, le Ravina, Marzutra, fils de Rav Mari, a posé la question suivante à Ravina, Emma, on pourrait dire, qui a adhéré Kra, lorsque la Torah l'a remis dans sa règle générale, Legabe matandamim ve'emurim, c'est uniquement en ce qui concerne l'aspersion du sang et le fait de faire brûler ces graisses sur l'autel des Bae Keuna, qui sont des actes qui nécessitent l'intervention d'un Kohen, Aval Shrita, mais en ce qui concerne la sacrification de ce sacrifice de l'Obaya Keuna, qui ne nécessite pas l'intervention d'un Kohen, l'Omi Vayet Safon, peut-être qu'il n'aura pas besoin d'être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Et c'est pour cela que la Torah a eu besoin de le préciser concernant le Korban Hasham offert par le lépreux. Et finalement, la règle générale donc des Korbanot Hasham ne peuvent pas apprendre de ce Korban Hasham, puisque finalement, comme nous l'avons vu, c'est un sacrifice exceptionnel. L'Agma répond, Imken, si c'est ainsi que la Torah n'a pas voulu le remettre entièrement dans sa règle générale, pour dire que les Korbanot Hasham doivent être sacrifiés impérativement dans la partie nord de la cour du sanctuaire, Nemakra kikachatatu. Le Passouk aurait pu se contenter de dire, car ce sacrifice est comme un Korban Khatat. On aurait appris qu'il faut asperger son sang et faire brûler ses graisses sur l'autel comme le Korban Khatat. Maikachatat Hashamu. Que veut dire le Passouk lorsqu'il dit, car le Korban Hasham est comme le Korban Khatat? Donc pourquoi cette précision de Korban Hasham? Forcément, c'est parce que la Torah veut nous enseigner, Keshar Hashamotiye, que ce Korban Hasham est comme tous les autres Korban Hasham. Donc finalement, la Torah le remet clairement dans le contexte des Korbanot Hasham. Forcément, c'est pour nous enseigner qu'impérativement, tous les Korbanot Hasham doivent être sacrifiés dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Et puis, nous pouvons ajouter le raisonnement suivant, du fait que pour les autres sacrifices que nous avons vus précédemment, le Korban Ola et le Korban Khatat, la Torah ne fait pas de différence entre la sacrification du sacrifice et le recueillement de son sang, qui doivent être donc impérativement effectués dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Ainsi, lorsque nous voyons que le Korban Hasham doit être sacrifié, son sang doit être recueilli dans la partie nord de la cour du sanctuaire, nous ne ferons pas de différence entre sa sacrification et le recueillement de son sang, de même que sa sacrification doit être impérativement effectuée dans la partie nord de la cour du sanctuaire, le recueillement de son sang le sera aussi. Nous avons mentionné précédemment le Passouk qui dit que ce Korban Hasham offert par le Metzora devra être sacrifié à l'endroit où on sacrifie le Korban Khatat et le Korban Ola. La Gemara demande, pourquoi est-ce que la Torah juxtapose ce Korban Hasham à la fois au Korban Khatat et au Korban Ola? La Gemara répond, Amar Ravina, itztarich, la Torah a eu besoin de juxtaposer, donc de comparer ce Korban Hasham à la fois au Korban Khatat et au Korban Ola. Car, si la Torah l'avait comparé uniquement au Korban Khatat et non pas au Korban Ola, Havamina, j'aurais pensé, dit, Khatat mechan namda. D'où est-ce que nous avons appris le Korban Khatat, donc il est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire? Mais Ola, nous l'avons appris du Korban Ola. Davar halamed be'ekesh, choser umlamed be'ekesh. Quelque chose que nous avons appris par le moyen du principe de la juxtaposition peut être appliqué à un autre endroit par le moyen d'une autre juxtaposition. C'est pour cela que la Torah l'a aussi comparé au Korban Ola, pour nous enseigner que sans cette comparaison au Korban Ola, on n'aurait pas appris que le Korban Hasham doit être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, étant donné qu'il est uniquement comparé au Korban Khatat, qui lui a appris cette loi par le moyen d'une juxtaposition. Amarle, Marzutra Bere de Rav Mari, le Ravina, Marzutra, fils de Rav Mari, a posé la question suivante à Ravina. Si c'est ainsi, Vinikshe Leola, Velo Nikshe Le Khatat, la Torah aurait pu se contenter de le comparer uniquement au Korban Ola, sans le comparer aussi au Korban Khatat. Donc pourquoi ces deux comparaisons? Rachma répond, Hava Amina, si la Torah ne l'avait comparé uniquement au Korban Ola sans le comparer aussi au Korban Khatat, j'aurais pu penser et dire Davar Halamed Bekesh, Roser Umlamed Bekesh, quelque chose que nous avons appris par le principe de la juxtaposition, peut-être aussi enseigné ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. Vechitema, et si tu me demandes Nikshe Akushe Ele Khatat, si c'est ainsi, il n'avait qu'à le comparer au Korban Khatat, pourquoi l'a-t-il comparé au Korban Ola? Ceci, je peux te répondre. Il se peut que la Torah a préféré comparer le Korban Hasham à l'essentiel, donc à la source de l'enseignement, donc le Korban Ola, velon akishle l'etafel, et elle n'a pas voulu le comparer au secondaire, donc au Korban Khatat, dont les lois ont été apprises du Korban Ola. Mais en fait, ce n'est pas une preuve qu'on n'aurait pas pu l'apprendre du Korban Khatat, malgré que ces lois ont été apprises par le principe de la juxtaposition. C'est pour cela que la Torah a comparé ce Korban Hasham à la fois au Korban Khatat et au Korban Ola. Les Mémar pour nous dire Davar Halamed Bekesh et No Choser Umlamed Bekesh, que quelque chose que nous avons appris par le moyen du principe de la juxtaposition ne peut pas être enseigné ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. Donc la Torah compare ce Korban Hasham au Korban Khatat, mais elle nous montre que ceci n'est pas suffisant en ajoutant une autre comparaison au Korban Ola. Rava Amar, Mehacha, Rava dit que c'est d'ici que nous apprenons que quelque chose que nous avons appris par le principe de la juxtaposition ne peut pas être enseigné ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. Dirtiv, car la Torah dit dans Vaikra Dalet, concernant le taureau que le Kohen Gadol doit offrir lorsqu'il a commis un péché, le pasuk dit « Kasher yuram mishor zebach hashlamim » etc. Ainsi qu'on prélève sur le taureau offert en tant que korban shlamim pour être offert sur l'autel, sous-entendu, il faudra aussi offrir de ce taureau. Alors la question se pose « Lema il cheta » pourquoi est-ce que la Torah a comparé ce taureau au taureau offert comme korban shlamim ?« I le yoter et hakaved ushtek haklayot » si c'est pour préciser que le diaphragme, une partie du foie et les deux reins doivent être aussi offerts sur l'autel. Begoufektiv, la Torah l'a écrit clairement concernant ce sacrifice. En effet, c'est écrit clairement plus haut. Selon la Shittah Mekoubetset, nous sautons la parenthèse, mais nous lisons, et là plutôt, Mishum deba'e agmure yoter et hakaved ushte aklayot, car nous avons besoin d'enseigner en ce qui concerne le diaphragme, une partie du foie et les deux reins, Mipar he'elem davar shel tzibur leseire avodat kochavim. À partir des lois concernant le taureau offert par le public lorsqu'il a commis un péché à la suite d'un enseignement erroné du tribunal, à un autre sacrifice qui est les boucs offerts par le public lorsqu'il a commis l'idolâtrie à la suite d'un enseignement erroné du tribunal. Le paragraphe concernant ce dernier sacrifice est enseigné dans Bamidbar Tetvav, et là-bas le pasouk ne précise pas quelle graisse serait offerte. Et du fait que le pasouk dit dans Bamidbar Tetvav, comme la Gemara le dit plus haut d'Af Memalef, et Hachem pardonnera leur péché, car ils ont offert leur sacrifice, dont une partie est brûlée sur le feu pour Hachem, et leur korban khatat sur leur péché commis par inadvertance. En fait, tout ce passage est en plus, et il est interprété de la manière suivante. Lorsque le pasouk dit « Vechatatam », leur korban khatat, il s'agit du bouc offert justement par le public qui a commis l'idolâtrie. Lorsque le pasouk conclut en disant « Al-Shikgatam » sur leur péché commis par inadvertance, en fait, cette expression fait allusion au taureau offert par le public lorsqu'il a commis un autre type de péché à la suite d'un enseignement erroné du tribunal. En fait, le pasouk veut les comparer pour nous dire que ce qui est offert sur l'autel pour le taureau, offert par le public, sera aussi offert du bouc offert par le public lorsqu'il a commis l'idolâtrie. Et en fait, Begoufé et l'Ortiv, en ce qui concerne le taureau offert par le public, le pasouk ne dit pas quelles graisses doivent être offertes. Umipar Kohen Mashiach ou de Gamar. Et en fait, nous avons appris du taureau offert par le Kohen Gadol qui a commis un péché, quelles graisses seront offertes pour le taureau offert par le public qui a commis un péché. En effet, nous l'apprenons du fait que le pasouk dit concernant ce taureau offert par le public, et il fera pour ce taureau comme il a fait pour le taureau du Korban Khatat. Il s'agit du taureau offert comme Korban Khatat par le Kohen Gadol. Et donc, par ce principe de juxtaposition, nous apprenons quelles graisses seront offertes du taureau offert par le public qui a commis un péché. Les hachitz tarir kasher yuram, c'est pour cela que le pasouk a eu besoin de préciser concernant le taureau offert par le Kohen Gadol, ainsi que sera prélevé pour le taureau offert comme Korban Shlamim. En fait, cette précision, cette comparaison est en plus. Denihave keman de katav vegoufe. Ainsi, nous pouvons considérer que le pasouk a écrit concernant lui-même, donc concernant ce taureau offert par le public qui a commis un péché, quelles graisses seront offertes. En effet, il existe un principe selon lequel nous disons que lorsqu'un pasouk a écrit quelque chose qui n'est pas nécessaire dans son contexte, nous pouvons l'appliquer dans un contexte autre et similaire. Donc, puisque cette comparaison n'est pas nécessaire pour le taureau offert par le Kohen Gadol, nous l'appliquons pour le taureau offert par le public. Finalement, il y a deux juxtapositions. Une où la Torah compare le taureau offert par le public à celui offert par le Kohen Gadol, et une autre où la Torah compare ce taureau offert par le public au taureau offert comme Korban Shlamim. Cette double juxtaposition nous fait considérer que les lois concernant les graisses qui doivent être offertes sur l'autel ont été écrites clairement à propos de ce taureau offert par le public. Ainsi, velo nehave davar lamed bekesh choser ou lamed bekesh, il ne s'agira pas de quelque chose que nous avons appris par le principe de la juxtaposition et qu'on puisse enseigner à un autre endroit par le principe d'une juxtaposition, car finalement, cela a été écrit, ou nous considérons que cela a été écrit clairement concernant le taureau offert par le public qui a commis un péché. Et nous pouvons donc appliquer une juxtaposition pour apprendre que pour le bouc offert par le public qui a commis l'idolâtrie, il faudra offrir les mêmes graisses. En la Gemara demande à Marle, Rafa Pale Rava, Vlichteve Begoufe. La Torah n'avait qu'à écrire clairement concernant le taureau offert par le public quelles graisses doivent être offertes, Velon Akish, et on n'aurait pas eu besoin d'employer le principe de la juxtaposition, puisque finalement c'est ce résultat que nous voulons obtenir pour pouvoir appliquer le principe de la juxtaposition pour apprendre quelles graisses doivent être offertes pour le bouc offert par le public qui a commis l'idolâtrie. L'Agma répond, « Yikatav begoufeh velo akish » Si la Torah avait écrit clairement pour le taureau offert par le public qui a commis un péché, quelles graisses doivent être offertes et n'avait pas eu recours à la juxtaposition, Abamina, j'aurais pu penser dire d'avoir à la Met Bekesh, Roser Mlamet Bekesh, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un principe de la juxtaposition, peut-être enseigné ailleurs par un autre principe de juxtaposition. Bechitema Nakshe Akushe, si tu veux me répondre si c'est ainsi, la Torah aurait pu se contenter de présenter une juxtaposition entre le taureau offert par le Kohen Gadol et celui offert par le public, puisque finalement, même si c'est ainsi, nous pourrons apprendre la loi concernant le bouc offert par le public qui a commis l'idolâtrie. Ceci n'est pas une question, car nichaleh dekatveh begoufeh, il se peut que la Torah ait préféré écrire clairement à son sujet, donc du taureau offert par le public qui a commis un péché, quelles graisses seront offertes, mi deakishleh akusheh, que d'avoir recours à une juxtaposition pour enseigner quelles graisses seront offertes pour ce taureau. Mais en fait, ceci n'aurait pas été une preuve que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition ne peut pas être enseigné ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. Le'achi katveh ve'akshe, c'est pour cela que la Torah l'a écrit clairement. Donc par ce système d'une autre comparaison supplémentaire au taureau offert comme Korban Shlamim, comme nous l'avons expliqué précédemment, Ve'akshe, et aussi a eu recours à une juxtaposition au taureau offert par le Kohen Gadol qui a commis un péché, les Memra pour dire, Davar halamed be'kesh en choser unamed be'kesh, que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition ne peut pas être enseigné ailleurs par le moyen d'une juxtaposition. Donc la Torah nous a montré qu'en fait, elle aurait pu se contenter d'une juxtaposition, mais quand même, par le moyen d'une juxtaposition supplémentaire qui, comme nous l'avons dit précédemment, nous précise que c'est comme si c'était écrit clairement au sujet de ce taureau offert par le public qui a commis un péché, pour nous dire que sans cela, on n'aurait pas pu apprendre quelles sont les graisses qui sont offertes pour le bouc offert par le public qui a commis un péché, puisque même s'il a été comparé au taureau offert par le public qui a commis un péché, puisque ces lois ont été apprises par le moyen d'une juxtaposition, on ne peut pas les enseigner ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. Dans la parenthèse, la Gemara va présenter quatre principes à propos desquels elle va essayer de déterminer si on a appris quelque chose par le moyen d'un des principes, est-ce qu'il est possible de l'enseigner ailleurs par le même principe ou par un des autres principes. Il s'agit de Hekesh, c'est la comparaison par juxtaposition, ou Gzera Shava, c'est la comparaison par le moyen de deux termes identiques employés dans deux passages différents, Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori, la Shita Mukubetset ajoute Ubinyanav. Il s'agit d'un principe selon lequel une loi peut être étendue à d'autres sujets tant qu'il n'y a pas de réfutation à ce raisonnement. Siman, c'est donc le signe qui va nous permettre de mémoriser ces quatre principes. En Lagmara dit, Davar halamed be'ekesh en choser umlamed be'ekesh, quelque chose que nous avons appris par le moyen du principe de la juxtaposition, on ne peut pas l'apprendre ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. I miderava, i mideravina, cela nous l'apprenons soit de l'enseignement de Rava que nous avons vu plus haut, soit de celui de Ravina. La question se pose, Davar halamed be'ekesh maush elamed be'gzera shava, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen d'une gzera shava dont le support serait un terme identique? La Gemara répond, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Il s'agit des lois de la lèpre. Rabbi Nathan ben Abdul Musomer, Minain lepricha bebgadim shehi teora. D'où savons-nous qu'une plaie ou une tache sur un habit qui s'étend sur tout cet habit, dans ce cas, l'habit est pur. C'est-à-dire, même si cette tache, théoriquement, aurait dû rendre cet habit impur, mais si elle s'est étendue sur tout l'habit, l'habit devient pur. La Braïta répond, Neemar karachat vegabachat bebgadim. Le pasouk emploie le terme de karachat et gabachat dans Vaikra Yudalet au sujet de la lèpre qui frappe les habits. En fait, le terme de karachat veut dire l'arrière, gabachat voudrait dire l'avant. Autrement dit, un vieil habit ou un nouvel habit, la lèpre donc qui frappe un de ses habits le rend impur. Veneemar karachat vegabachat beadam. Et la Torah emploie aussi le terme, toujours dans Vaikra Yud Gimel, concernant l'homme, le terme donc de karachat et gabachat, dans le cas où il perd ses cheveux à l'arrière ou à l'avant. Ma lehalan parach bekulot tahor, de même que là-bas, au sujet des lèpres qui frappent les cheveux ou la tête, si cette lèpre s'est étendue sur toute la tête, il est pur. Afkan, ainsi ici, au sujet des habits, parach bekulot tahor, si cette lèpre s'est étendue à tout l'habit, celui-ci est pur. Vehata menalan, et là-bas, au sujet de la lèpre qui frappe les cheveux, d'où le sait-on que si cette plaie s'étend sur toute la tête, cette plaie est pure, donc l'homme est pur. La Braïta répond, dirtiv, car le pasouk dit, toujours dans Vaikra Yud Gimel, Merosho ve'adraglav, donc si la plaie s'étend de sa tête jusqu'à ses pieds, de itkash rosho le regel. Donc dans ce pasouk, le pasouk compare la tête aux pieds, mal halan, de même que là-bas, au sujet des pieds ou du corps de l'homme. Selon la Shita Mukubetset, nous sautons les trois mots suivants. Parach bekulot tahor, si ses plaies s'étendent à tout le corps, l'homme est pur, donc ses plaies est pure. Afkan, ainsi ici, au sujet de la tête. Toujours selon la Shita Mukubetset, nous sautons les trois mots suivants. Parach bekulot tahor, si la plaie s'est étendue à toute la tête, celui-ci est pur. Nous avons vu donc qu'en ce qui concerne la plaie de la tête, nous l'avons appris par le moyen d'une juxtaposition que si celle-ci s'étend sur toute la tête, l'homme est pur. Et par le moyen d'une xerashava, nous avons appris que la lèpre qui s'étend sur tout l'habit, celui-ci est pur. Nous voyons que ce que nous apprenons par le moyen d'une juxtaposition, nous pouvons l'apprendre ailleurs par le moyen d'une gzera shava. La Gemara répond Amar Rabbi Yochanan, Bekol HaTorah Kula, en ce qui concerne toutes les lois de la Torah, les Medim, Lamed, Milamed, on peut apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un principe quelconque, même lorsque nous l'avons appris par le moyen d'un autre principe. Donc dans notre cas, nous pouvons apprendre par le moyen d'une gzera shava quelque chose que nous avons déjà appris par le moyen d'une juxtaposition. Chutz min hakodashim, à part en ce qui concerne les lois des sacrifices. Chez Endanin Lamed Milamed, qu'on ne peut pas apprendre quelque chose que nous avons déjà appris par un principe, par le moyen d'un autre principe. Donc, en ce qui concerne les sacrifices, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, nous ne pourrons pas l'apprendre ailleurs par le moyen d'une gzera shava. Dimken, car s'il était possible d'apprendre par une gzera shava quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, lo yomar tzafon habeacham, la Torah n'avait pas besoin de nous enseigner que le korban hacham doit être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, vetiti begzera shava, et on aurait pu l'apprendre par le moyen d'une gzera shava de kodshe kodashim, dont le support serait le terme de kodshe kodashim. Mechataot, employé à la fois concernant le korban chatat et concernant le korban hacham. Lav le memra de davar lamed bekesh en choser umlamed begzera shava, n'est-ce pas que cela nous enseigne que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, on ne peut pas l'apprendre ailleurs par le moyen d'une gzera shava? La Gemara réfute, vedilma mishum di ikal mefrach, mais peut-être parce qu'on aurait pu réfuter cette gzera shava, car il n'est pas évident que ces termes kodshe kodashim sont en plus pour appliquer cette gzera shava, et on aurait pu présenter la réfutation suivante, malechatat sheken mechaperet al chayav ekritut. Comment peux-tu l'apprendre d'un korban chatat alors que le korban chatat expie les péchés condamnés par la peine du retranchement dans le monde futur? La Gemara répond, kodshe kodashim yeterektive. La Torah emploie à plusieurs reprises l'expression kodshe kodashim à la fois concernant le korban chatat et concernant le korban hacham. Ils sont donc en plus et on pourrait donc appliquer cette gzera shava s'il était possible de le faire et on n'aurait pas pu présenter de réfutation. Puisqu'on ne l'a pas fait, cela nous enseigne que ce que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, on ne pourra pas l'apprendre ailleurs par le moyen d'une gzera shava. Donc, en conclusion, ce que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, on ne pourra pas l'apprendre ailleurs en ce qui concerne les sacrifices, ni par le moyen d'une juxtaposition, ni par le moyen d'une gzera shava. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zbachim Daf Mem Tet. Nous commençons le shiur de Maseret Zbachim Daf Nun. Nous commençons Daf Mem Tet Amud Bet à la dernière ligne en bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent qu'en ce qui concerne les sacrifices, une loi que nous avons appris par le moyen d'un hekesh, une juxtaposition, on ne pourra pas l'enseigner ailleurs, ni par le moyen d'une juxtaposition, ni par le moyen d'une gzera shava. La Gemara va poursuivre sa recherche concernant les autres principes. La Gemara dit, davar halamed mehekesh, une loi que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, choser ou manamed bekal bachomer, on peut l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.